sound. Chronique des Libres Marianne Arras sur Radio PFM. On retrouve à notre micro Marie-Noël. Le thème de la chronique cette semaine, l'histoire du vote des femmes en France.
Plus que pour manier le bulletin de vote, les mains des femmes sont faites pour être baisées. Baisées dévotement quand ce sont celles des mères, amoureusement quand ce sont celles des femmes et des fiancées. Séduire et être mère, c'est pour cela qu'est faite la femme. Ainsi parle M. Bérard, vice-président du Sénat de 1919 à 1923. Bon, les choses sont claires. Mais pour celles qui n'auraient pas compris, on remet cela quelques années après. M. Calmel, sénateur de 1924 à 1940, constate avec beaucoup de commisération que « la femme a tout à perdre à entrer dans les luttes électorales. Que de déceptions et de souffrances nous lui éviterons en ne lui donnant pas le droit de vote. » Donc en ce temps-là, au XXe siècle, les femmes françaises ne votaient pas. Ailleurs, si. En Finlande, en 1906, et bien avant, aux Antipodes, en Australie, en Nouvelle-Zélande, et puis au Tadjikistan, au Turkménistan, aux États-Unis. Là-bas, les femmes votent. Et la liste est longue, trop longue à citer, de tous ces pays, bien en avance sur la France. Mais la France est le pays des petits êtres fragiles qu'il faut protéger. Ce n'est pas le seul argument. Il y en a un autre, un peu contradictoire, mais cela ne gêne pas les adversaires du vote féminin. Les femmes peuvent mettre en péril la République. Les femmes sont donc des bibelots fragiles, dangereux. On redoute à la fois leur faiblesse et leur force. Le combat a été long, mené d'un côté par des hommes. Déjà au moment de la Révolution, Condorcet se prononce pour le vote des femmes dans un article du journal de la Société de 1789. Pendant la Seconde République, un député socialiste, Pierre Leroux, défend le droit de vote féminin aux élections municipales, ce qui déclenche l'hilarité générale. En 1906, Paul Duchossois, député du Pas-de-Calais, dépose une proposition en faveur du vote des femmes, sans résultat. La guerre interrompt le processus, puis la Chambre des députés débat à diverses reprises de ce texte, qui sera adopté par 344 voix contre 97. À 4 reprises, les députés se prononcent en faveur du vote des femmes, mais à chaque fois, le Sénat fait opposition. De leur côté, les femmes n'étaient pas inactives. Il y a eu divers mouvements suffragistes, la création de l'UFSF, Union française pour le suffrage des femmes. Cécile Brunswick rassemblera plus de 100 000 personnes. Il y a différentes formes de féminisme, en fait. Il y a un féminisme républicain, de sensibilité laïque et sociale, un féminisme plus radical, associé à des engagements syndicaux. Il y a un féminisme modéré, autour d'associations proches de partis de droite et catholiques. Les féministes sont surtout des femmes, mais certaines associations sont mixtes et les soutiens masculins sont recherchés. La franc-maçonnerie apporte son soutien, le Parlement, une ligue des électeurs pour le suffrage des femmes est présidée par le député Ferdinand Buisson. Les moyens d'action sont limités. La campagne des Françaises est moins violente que celle des Anglaises, emprisonnées, nourries de force quand elles font la grève de la faim. En France, les manifestations de rue sont interdites, peu d'actions spectaculaires. Une militante s'enchaîne sur un banc du Sénat. Louise Weiss distribue des chaussettes aux sénateurs portant l'inscription « Même si vous donnez le droit de vote, vos chaussettes seront raccommodées ». Mais c'est par leurs meetings, leurs journaux, leurs tracts que les suffragistes ont réussi à convaincre l'opinion. Deux types d'arguments sont utilisés. Le premier se réfère à la Déclaration des droits de l'homme qui prône l'égalité de tous les citoyens. Donc les femmes sont injustement privées d'un droit. L'autre justifie le droit de vote des femmes au nom de la spécificité féminine. Leur qualité enrichirait la vie politique, leur programme étant essentiellement social. L'opinion publique est favorable. La Chambre des députés cherche à entraîner le Sénat, qui s'oppose systématiquement. Le dénouement se joue d'abord le 23 mars 1944. L'Assemblée consultative, siégeant à Alger, adopte le principe du droit de vote des femmes par 51 voix pour et 16 voix contre. Puis, le 21 avril 1944, le général de Gaulle rédige une ordonnance. Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Enfin, les femmes françaises voteront pour la première fois le 29 avril 1945, il y a seulement 71 ans. C'est ainsi que prend fin un combat de plus d'un siècle où tant de femmes ont combattu, bravant l'hostilité, le mépris, les insultes, les humiliations. Peut-être faut-il réfléchir à tout cela, peut-être faut-il en tirer les conséquences. Il est important de se rendre au bureau de vote, pour voter. Pas par déception, pas par représailles, mais dans le souci des valeurs de la République. Pour toutes celles qui croient à la liberté de conscience, celles qui croient à l'égalité de tous, celles qui pensent que la fraternité n'est pas une utopie.
C'était Marie-Noël au micro de Radio PFM. On vous rappelle le contact mail de l'association Libre Marianne Arras. C'est Libre Marianne, donc au pluriel, Libre Marianne Arras, tout collé, @free.fr.